Bonjour Yann.
Bonjour Chantal.
Oui, qui sera présent en fait durant toute l'émission avec nous et à qui je cède la parole à l'instant pour accueillir nos deux invités en studio, hein, Leslie Johnston et François Letourneux. Bienvenue, deux co-commissaires vraiment très impliqués au MAC. Voilà.
Alors donc, l'exposition qui se compose de 21 œuvres et qui couvre les 18 dernières années de la production de Lozano MR, qui est née au Mexique en 67, l'année de l'expo à Montréal. Donc, plusieurs œuvres sont interactives et impliquent la participation des visiteurs, soit par le mouvement, le son ou la respiration. C'est souvent ludique, l'art de Lozano. Ça fait aussi réfléchir sur les technologies, mais souvent, il y a un aspect poétique qui s'en dégage et qui vient toucher à plusieurs niveaux le spectateur. Donc, pour Madame Johnston, vous êtes la chef des expositions et de la dédication au Musée d'art contemporain depuis combien d'années?
Chef des expositions depuis 3 ans, au MAC depuis 10 ans.
Depuis 10 ans. Et quel est votre rôle en tant que chef? C'est vous qui fouettez les commissaires?
C'est moi qui fouettez. En fait, je suis responsable de tout ce qui est les expos temporaires. On a aussi une conservatrice de la collection, Marie-Ève Beaupré, et tout ce qui est éducation, action culturelle, programme public, développement du contenu numérique, donc tous les ateliers que nous, on a beaucoup de jeunes qui sont là pour le camp d'été cet été, donc tous les ateliers, toutes les universités, cégep, secondaire qui viennent nous visiter, je chapeaute tout ça. Le contenu, quoi.
Mmh. Et François Letourneux, vous êtes conservateur adjoint depuis 10 ans. Vous êtes le seul conservateur masculin, je pense.
Non, il y a aussi Marc Langteau.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous avez obtenu un doctorat en histoire de l'art ainsi qu'en cinématographie. Est-ce que c'était l'histoire du cinéma?
Pas du tout, non. Voilà. J'ai un doctorat en histoire de l'art, mais c'était au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cinéma dans le...
Ah bon. Et vous dirigez aussi les colloques Max et Rister.
C'est ça.
Quelques mots sur ces colloques.
Mm-hmm. Donc ça, ce sont des colloques qu'on tient annuellement. Pas toujours, mais le plus souvent en relation avec nos expositions. Et donc voilà, très souvent, on travaille avec des partenaires et on essaye d'avoir des conversations qui sont assez multidisciplinaires avec des gens qui sont des historiens de l'art, des conservateurs, des artistes, des spécialistes. Parfois, ce sont des spécialistes dans des domaines qui sont particuliers auxquels on ne touche pas nécessairement, mais avec lesquels on aime collaborer. Hein, voilà.
Et il y a aussi un troisième conservateur, Rudolf Frieling. Mm-hmm. Pour donner corps à l'expérience, quelle était sa participation?
En fait, l'exposition de Raphaël Lozano est une coproduction avec le San Francisco Museum of Modern Art. Rudolf est le conservateur du art médiatique, grand spécialiste d'art médiatique. François et moi, nous sommes plus généralistes comme conservateurs. Et c'est une exposition qui sera présentée ici à Montréal, à San Francisco et aussi à Monterrey au Mexique. Donc, on a travaillé le choix d'œuvres ensemble avec Rudolf. On a développé le catalogue qui va sortir plus tard. La mise en exposition, les relations entre les œuvres, ça a tout été fait en collaboration avec eux. Donc, on s'est partagé les listes, les plans de salle. Donc, ça a été vraiment une collaboration pour le MAC. C'est vraiment, on se sent extrêmement privilégié de travailler avec cette grande institution, surtout en art médiatique, mais qui vient d'ouvrir un nouvel édifice en plus. Donc, ça vraiment, et que Raphaël soit présenté là-bas, c'est un parfait place pour lui, San Francisco.
D'où proviennent les œuvres?
Ils proviennent d'un collectionneur assez exceptionnel en Turquie, Borusan. Borusan, je pense que ça s'appelle que Borusan, qui est une compagnie, mais aussi une fondation, qui les grandes œuvres qui appuient Raphaël depuis longtemps. On a emprunté des œuvres du Tate, du Cisneros à Miami. François Rochon, Giverny Capital, ici à Montréal, et beaucoup d'œuvres qui proviennent du studio de l'artiste.
Mm-hmm. Lozano habite Montréal depuis 67. Comment vous avez partager le travail de rétrospective? C'est la première fois qu'il y a une rétrospective.
Oui, en fait, il ne vit pas à Montréal depuis 67.
Il est
à Montréal depuis...
En fait, il est venu à Montréal faire un bac en chimie qu'il a obtenu en 89, mais ensuite, il est reparti en Espagne. Et il a passé un peu de temps à Madrid et ensuite il est revenu dans les années 90 ici.
Et donc, il y a plusieurs technologies dans l'art de M. Lozano EMR. Entre autres, il y a des microphones, des algorithmes, des scanners, des caméras de surveillance. Ce sont donc des techniciens qui ont collaboré à faire le montage et la présentation.
Bien, en fait, lui a un atelier d'une douzaine de personnes qui comprend des artistes sonores, architectes, programmeurs, techniciens technologiques. Donc, ici à Montréal. Donc, chaque œuvre, en fait, a quelqu'un dans son atelier qui est attitré à l'œuvre en fonction des différentes technologies. Donc, ils étaient très présents avec nous pendant l'installation, tout au long de l'exposition. Nous, on a des techniciens internes, mais pour tout ce qui est vraiment interactif avec des caméras de surveillance,
Détecteurs de mouvement?
Oui, mais les Kinect, oui. C'est vraiment particulier à l'œuvre comme telle. La programmation, les ordinateurs, tout ça, ça vient vraiment avec
les œuvres. Et si ça tombe en panne?
Très heureux parce que le studio est ici à Montréal. Donc, on peut les appeler. Il y a beaucoup de travail que nous, on peut faire, mais sinon, ils sont ici. Mais ceci dit, il y a une grande exposition en ce moment en Corée et ils ont engagé un technicien là-bas. Ils ont fait des visites, donc il y a des techniciens sur place aussi, parce que évidemment, avec des technologies interactives, il va y avoir des bugs ici. On a juste besoin d'avoir une coupure d'électricité au musée, puis les œuvres peuvent avoir des petits pépins.
Dans la rotonde, il y a une installation lumineuse qui réagit au battement de cœur d'un visiteur. C'est stratégique d'avoir placé cette pièce-là, qui est un peu l'indice de l'ensemble du corpus, où il y a la technologie et l'émotion, ce qui n'est pas toujours le cas pour les artistes qui utilisent les nouvelles technologies.
Je vais peut-être laisser François répondre avant.
Je pense que vous avez raison. C'est un signal qu'on donne. D'abord, c'est le genre d'œuvre pour lequel Raphaël est très connu. Hein, ses œuvres à grand déploiement qui épousent un petit peu un lieu particulier. Et dans ce cas-ci, il se trouve que ce lieu, c'est le musée. Et nous, on a déjà travaillé quand même avec Raphaël pendant la triennale de 2011. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les grands faisceaux.
Exposition à Winemar.
C'est ça qui balayait le ciel à partir de la place des spectacles. Mais on avait aussi présenté donc cette œuvre Paul Spiral sous une forme un petit peu différente. C'était Paul's
Room. Dans une grande salle, c'est au plafond.
Voilà, exactement. Donc voilà, et puis en ce qui concerne l'émotion dont vous parlez, c'est sûr que c'est toujours assez magique, les gens, quand ils mettent leurs mains sur l'ascenseur et qu'ils voient leur rythme cardiaque battre d'abord, allumer toutes les ampoules, puis ensuite quand ils voient que ce rythme est enregistré dans la première ampoule, il y a quelque chose d'un peu émotionnel, mais c'est quand même une œuvre c'est quand même une œuvre qui fait un portrait de groupe en ramenant tout le monde un peu au dénominateur commun élémentaire qu'est le battement cardiaque. Mais c'est intéressant parce que si vous parlez d'émotion, il y a une œuvre juste à côté qui est Level of Confidence, qui est très politique et qui est aussi émotive jusqu'à un certain point. Mais cette fois-ci, c'est vraiment des individus singuliers qui sont identifiés par portrait, etc. Donc il y a plusieurs modalités de ce que vous évoquez là.
Dans la toute petite salle au pied de l'escalier, il y a le projet qui commémore la disparition des 43 étudiants au Mexique. Oui. J'ai pas vraiment saisi cette démarche artistique qui m'a paru plutôt l'anthropologie ou la sociologie.
C'est intéressant parce que justement, il est hésitant à placer cette œuvre-là, Raphaël, dans le parcours d'œuvre de l'exposition. Et effectivement, elle a peut-être un statut un petit peu particulier. Ça se débat, mais est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu?
J'avais raison, en fait.
Comment? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une dimension... C'est vrai qu'il y a une dimension anthropologique, disons sociale peut-être, plutôt une dimension commémorative. Mais on pourrait la qualifier de non artistique si on réduit l'art à une dimension peut-être esthétique ou je sais pas. Mais je pense que les gens ont des réactions vraiment assez variées à cette œuvre-là. C'est une œuvre qui est en open source. Sa structure est complètement ouverte et partageable. Donc c'est simplement pour vos auditeurs qui comprendraient pas ce que c'est. C'est une œuvre en fait qui rassemble les portraits de 40 43 étudiants d'une école rurale. C'était des jeunes mexicains qui étaient voués à devenir professeurs d'école, un petit village s'appelait Ayotzinapa, et qui se sont déplacés à l'automne 2014 dans plusieurs autobus pour se rendre à Mexico pour célébrer un massacre très célèbre qui a eu lieu en 68, là, juste avant les Jeux Olympiques. Et ils se sont fait intercepter dans des circonstances et ils sont disparus dans des circonstances qui sont assez troubles, en fait. La police et les cartels étaient probablement impliqués les deux ensemble. Et donc, ce que fait l'œuvre de Raphaël, c'est qu'il y a un algorithme de reconnaissance faciale qui observe le visage des visiteurs. Et l'œuvre essaie de faire correspondre. En fait, c'est une œuvre à retrouver les disparus. Donc, à partir de vos traits, elle essaie de voir si elle n'a pas devant elle un de ces disparus-là. Donc, avec un certain niveau de confiance, le titre de l'œuvre, niveau de confiance, elle vous attribue un visage. Donc il y a une dimension commémorative, mais une dimension aussi empathique. Je pense que là, ça touche quand même une caractéristique fondamentale de l'art. Et voilà, je vois que vous...
Dans le petit sable du corridor, on trouve mesure et double mesure, qui est une ceinture qui pivote selon le mouvement du spectateur. À l'origine, il y avait plusieurs ceintures. Ça change un peu le sens de l'œuvre d'en avoir utilisé qu'une seule.
Oui, ça change. Ça a été en fait une décision de la sélection d'œuvres. On peut peut-être revenir en général sur la sélection d'œuvres dans l'exposition. On voulait vraiment varier les échelles des œuvres, démontrer la profondeur de la matérialité des œuvres de Raphaël, de les différentes technologies qu'il utilise évidemment, mais aussi leur rapport à créer avec les visiteurs. Donc, on voulait pas que des grandes installations où on rentre dans une salle fermée tout noir. On voulait vraiment ponctué entre des plus petites, plus intimes, expériences plus intimes avec des œuvres beaucoup plus immersives. Donc, Paul Spiral, c'est une œuvre immersive qui vraiment, c'est comme presque le battement du cœur du musée comme tel, avec une œuvre comme Standards Double Standards qui existe dans une version à 100 ceintures, à 10 ceintures. Et pour nous, cette petite salle-là était le lieu parfait pour un genre de, presque un recueillement pour une ceinture toute seule, de créer un genre de un à un, de corps à corps entre le visiteur et cette ceinture militaire qui tourne en fonction de notre déplacement. Donc, c'est probablement l'œuvre la plus simple de l'exposition au niveau de cette interaction, mais qu'on souhaitait vraiment mettre de l'avant dans son travail.
Et j'ai trouvé très amusant les petits écrans verts au mur programmés avec une banque de mots. C'est un clin d'œil au surréalisme avec les cadavres exquis.
C'est ça. C'est en fait, c'est une œuvre qui a été produite pour le Biennale à La Havane, à un moment où la parole, l'internet était pas très, il y avait pas une disponibilité très ouverte à La Havane. Et donc c'est une banque de, je sais pas combien de mots, François.
Le nombre de mots exact, je sais pas. On est à 5 milliards de propositions possibles, c'est c'est trois langues, hein, donc.
Même quatre anglais, ouais. Français, allemand et espagnol. Cette banque de mots crée des questions qui n'ont pas de sens. Donc, le cadavre exquis, et c'était un niveau de lisibilité. Donc, on n'est pas capable de lire, ou on peut lire, mais on n'a pas le temps de saisir la portée de la question.
Et ça va prendre 3000 ans pour reformuler les mêmes questions.
C'est ça. Qui n'ont pas de sens.
Nous ne sommes pas là. Alors, pour Zoom Pavilion, il y a 12 caméras de reconnaissance faciale. Est-ce que c'est légal de filmer comme ça des visiteurs et de garder ces images en archive?
Bon, c'est drôle que vous posiez cette question-là, parce que Raphaël, pendant un moment, voulait avoir une affiche, faire signer les gens, en fait, à l'entrée de l'exposition pour qu'ils cèdent leur droit à l'image, vu qu'ils vont se faire filmer, enregistrer tout au long de l'exposition. Mais ce qu'il aime souvent dire dans Zoom Pavilion, c'est que ce sont les corporations qui sont intéressées à garder ces informations et pas les artistes qui, eux, dit-il, aiment oublier.
Fois, on s'en sert pour faire d'autres œuvres.
Oui, mais dans cette œuvre en particulier, donc peut-être pour vos auditeurs, ce sont des caméras de surveillance qui enregistrent les relations entre les individus dans un espace et qui ensuite les transposent sur un mur arrière. Donc les visiteurs sont regroupés par paires. Donc, mais vous êtes dans l'œuvre uniquement le temps que l'espace, que cette mémoire temporaire là soit remplie. C'est comme Paul Sparrow, une fois que le temps, quand quelqu'un rentre, il y a quelqu'un d'autre qui sort. Donc l'œuvre n'a pas de mémoire et toutes les œuvres de Raphaël n'ont pas de mémoire permanente comme ça.
Alors, l'artiste va parfois chercher loin ses sources d'inspiration, entre autres pour Au clair de la lune, mm-hmm. avec une déclaration mm-hmm. de Charles Babbage en 1838. Alors, parlez-nous donc...
Je peux commencer, mais François peut aussi. Ça, c'est un bon exemple d'une œuvre qui a des résonances avec plusieurs autres œuvres à l'intérieur de l'exposition. Donc, Charles Babbage, qui est... l'inventeur de l'ordinateur, et qui a aussi cette phrase qui dit que si on pouvait reculer dans tous les mots qui sont prononcés restent dans l'air, et si on peut reculer dans le temps, on pourrait toutes les rattraper. Et Volute, Au clair de la lune, est une œuvre qui est la matérialisation sculpturale du phrase Au clair de la lune. Donc Raphaël a travaillé avec deux instituts scientifiques à trouver des moyens de capter par logiciel cette phrase-là, le bulle d'air de cette phrase-là, et le transformer dans une sculpture, le matérialiser dans une sculpture qui est accrochée au mur.
En quel matériau?
C'est du polymère.
Ah, du polymère.
Donc, c'est une petite sculpture. C'est la seule sculpture que Raphaël a produit, mais qui fait aussi un lien avec une œuvre qui s'appelle Nano Pamphlet, qui fait un rapport avec Call on Water, qui est du vapeur. Donc, toute cette idée d'une matérialisation, dématérialisation de la parole, de la voix, elle est un peu partout dans l'exposition.
Et il y a une œuvre assez bruyante. Ce sont des rubans enregistreurs. Le bruit est associé à la punition. Est-ce que c'est un jugement de la part de Lazarus sur l'invasion des techniques d'enregistrement de données personnelles?
Moi, je pense que c'est intéressant que vous parliez de punition. C'est vrai que parfois, donc, ce sont des rubans enregistrés qui sont sur un mur et qui calculent la quantité de temps que les visiteurs passent dans la salle. Donc, de temps en temps, il y en a qui s'effondrent sur le sol et ça fait effectivement un certain vacarme. Mais ça surprend les gens, en fait. Souvent, ça tombe à côté des gens, donc ça fait un peu sursauter. Ça peut évoquer effectivement une punition. Ça nous ramène à la ceinture. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il y a un point de vue un peu humoristique sur l'enregistrement des données, mais aussi sur l'obsession de la quantification. Les mesures, tous les aspects de la vie qui sont quantifiés, etc. Et puis aussi un clin d'œil au problème d'effondrement des systèmes et ce genre de choses-là.
Et pour faisceau de voix, c'est la voix des spectateurs qui actionne une bande lumineuse tout autour de la salle. Ça m'a rappelé une installation semblable d'un artiste dont j'oublie le nom, qui avait installé des haut-parleurs en cercle.
John
Cardiff. Est-ce qu'il peut y avoir un emprunt ou...
C'est drôle, j'ai jamais pensé à ça.
C'est un peu le contraire.
Oui, en fait, c'est ça cette œuvre-là, c'est pour moi le Voice Array, c'est vraiment une cousine à Paul Spiral, parce que c'est cette idée-là qu'on enregistre notre voix et puis le faisceau lumineux envahit tout l'espace, et à chaque fois qu'une nouvelle voix s'ajoute, il y en a une qui disparaît. François faisait allusion à ça avec Voice Array. Avec Zoom Pavilion. C'est probablement une des œuvres les plus simples au niveau de son dispositif dans la salle. C'est une salle blanche avec une bande en aluminium avec ses vaisseaux spatiaux. C'est peut-être intéressant juste de dire que Raphaël a aussi réalisé une version de cette œuvre-là sur une longueur de 3 km dans un tunnel à New York. Donc, ça donne une idée avec évidemment des beaucoup plus grandes lumières et d'éclairage plus de cinéma, mais on parlait au tout début, puis là, on voyait pendant un kilomètre de long. Donc, il y a aussi ça dans son travail où une même idée, un même dispositif peut se déployer tant dans l'espace public que dans un espace de musée ou de galerie.
Mm-hmm. Il y a aussi une autre installation sonore, celle des hymnes nationaux, qui est basée sur le nombre de réfugiés accueillis dans les pays. Je n'ai pas saisi les deux chiffres qui sont au ras du sol.
En fait, ça, c'est une œuvre qui se transforme ou qui change à chaque instant. installation. C'est les conservateurs de l'exposition qui choisissent une statistique. Donc, nous, on a choisi le nombre de réfugiés accueillis par pays en 2016. Donc, on a tout un déploiement de 122 petits haut-parleurs qui sont structurés le long d'un mur en fonction du nombre de réfugiés qu'ils ont accueillis. Donc, le petit chiffre.
Il y en a deux.
Oui, il y en a deux. Donc, c'est chaque colonne de haut-parleurs, c'est ils ont accueilli de 50 à 150 réfugiés ou 500 000 à 1 million et demi. Donc, c'est vraiment les statistiques catégorisées. C'est ça, exactement.
Et il y a la fameuse, la plus impressionnante respiration circulaire qui provoque une insécurité chez
vicieuse.
Les visiteurs. Vous allez avoir beaucoup de réactions parce qu'on pénètre dans une cage de verre pour respirer l'air un peu pollué des visiteurs précédents. Est-ce qu'il y a eu des réactions violentes ou...
Non, pas de réaction violente. C'est très surprenant parce que quand vous avez toujours une sorte de polarisation dans un groupe, quand vous leur expliquez l'œuvre, il y en a une certaine partie qui ont l'air effrayée, et puis il y en a d'autres qui semblent être très pressés d'y rentrer. Donc c'est curieux, mais à vrai dire, c'est pas si intenable que ça à l'intérieur.
Et par contre, dans la même salle, il y a une toute petite sculpture minuscule qui s'appelle Nanotracks de Babbage. Et ça dit qu'il y a des milliers de nanotracks en or qui ont été relâchés dans le système de ventilation. Est-ce que c'est vrai?
Ils nous ont dit que c'était vrai. Nous ne l'avons pas vu. Mais ces petites particules d'or sont aussi dans une petite bouteille en verre. Donc, ils sont là, puis une partie. Peut-être François peut en parler, mais c'est un lien... Avec Volute, là, donc le texte.
Donc c'est le texte de Babbage qui parle des paroles qui sont enregistrées dans l'air, qui sont gravées sur des particules d'or élémentaires. Raphaël a travaillé avec un atelier de nanogravure à Cornell University pour faire ces petites particules d'or, et elles sont en suspension, la plus grande partie est en suspension dans du formol, la petite bouteille qui est là. Donc, c'est ce que vous voyez tourner de temps en temps, vous voyez là, un petit mouvement dans le liquide, c'est ça.
Comme le cœur du frère André.
Exactement comme ça.
Et vous invitez les visiteurs à humer, à respirer ces particules d'or.
Bien
donc, on est plus riche en sortant du musée.
Exactement.
Et Sismoscope, qui est un dispositif qui dessine un portrait d'un philosophe arabe au Moyen-Âge. On voit plusieurs exemplaires sur le mur. Pourquoi donne-t-on les noms de deux autres philosophes, Francisco Sanchez et David Hume, alors qu'on n'en voit qu'un seul?
La pièce s'intitule Sismoscope, fait partie d'une série, donc chaque sismoscope dessine en fait un seul philosophe. Ce que tous ces philosophes ont en commun, c'est d'être des sceptiques. Mm-hmm. Et dans le cas de Abou el-Ghazali, donc vous voyez, c'est vraiment toujours un peu les débats philosophiques autour de la raison, de l'existence de Dieu, et surtout dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est peut-on faire confiance à ses sens pour connaître, parce que bon, c'est une machine en fait qui enregistre les vibrations dans l'espace. Donc, le portrait a des traits plus ou moins prononcés selon qu'il y a un degré de vibration élevé dans l'environnement. Alors, la question de savoir ce qu'on peut percevoir ou non, hein, le cas des vibrations sismiques ou sonores, etc., c'est vraiment pile sur la question du scepticisme philosophique.
Puis peut-être juste ajouter que chaque jour, il y a un nouveau portrait qui se dessine. Donc, le mur en arrière, un peu comme l'archive dans Zoom Pavilion, c'est le portrait de l'exposition, en fait. Chaque jour de l'exposition, il y a un portrait qui est produit.
Mm-hmm. Et il y a les poèmes de son oncle, l'oncle de l'artiste Octavio Paz, qui a inspiré une œuvre avec un bassin d'eau et des vapeurs.
Magnifique œuvre.
Ouais, c'est très poétique.
Très poétique, oui. Mm-hmm.
Alors, quelques mots sur cette œuvre-là.
Tout simplement, c'est assez amusant parce que c'est une œuvre qu'on voit quand on approche, on voit les ondes sur le plafond de lumière, ça fait un peu penser à Sismoscope. Donc, c'est cette idée encore de Babbage que les mots sont transportés dans l'air, qui sont en fait enregistrés dans une espèce de mémoire magnétique sous-jacente, quelque chose comme ça. En gros, c'est un bassin d'eau à peu près à hauteur de genou. Quand on s'approche, en fait, la caméra détecte la présence du visiteur. Et il y a des pulvérisateurs ultrasonores, dans le fond, qui sont juste en dessous de la surface de l'eau et qui, par ultrason, produisent une sorte de vapeur sèche. Et ça forme des mots, donc qui se matérialisent comme une fumée à la surface de l'eau. Et ces mots sont extraits de poèmes d'Octavio Paz.
Et finalement, le parcours se termine avec trois œuvres où la musique des grands compositeurs Bach, Mozart, Berlioz est diffusée par les petits haut-parleurs. Je vous laisse un peu décrire.
En fait, il y a dans l'exposition, il y a deux sphères. Il y en a une qui est dédiée à Bach, une qui est dédiée à Wagner. Comme Seismoscope, c'est une œuvre qui existe en 12 ou 13 différentes œuvres d'une même série. Toute la série, c'est une sphère qui comprend un sound channel.
Ouais, comme un canal.
Un canal de son dédié à une des compositions d'un seul compositeur. Donc, la très grande sphère, il y a 1128 haut-parleurs, donc chacun est une des compositions de Bach. Tous les autres de la série sont beaucoup plus petites, c'est des petites sphères qui sont suspendues du plancher, du plafond. Là, on a Wagner aussi dans l'exposition, donc Wagner qui a beaucoup plus grande en termes de d'envergure, mettons, ou de ce qu'on connaît de ses travaux, de ses œuvres qui sont beaucoup plus pompeux, beaucoup plus grandioses, est une petite sphère, tandis que Bach, qui en a plus que mille compositions, c'est une œuvre, une sphère dans laquelle on peut rentrer. Et Raphaël a fait une composition lui-même avec toutes les compositions de Bach. Donc, c'est une œuvre assez... En fait, c'est comme un instrument de musique dans lequel le visiteur peut rentrer.
Alors, on a fait le tour de l'exposition. Est-ce que Chantal avait...
Mais peut-être en terminant, ce qu'on peut relever de cette exposition-là, principalement, c'est une exposition qui suscite une réflexion sur le nouveau langage, langage incontournable selon l'artiste, la technologie, et un langage une technologie qui souhaite rendre plus visible, plus humaine. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense, une réflexion qui est suscitée d'œuvre en œuvre. Hein?
Oui. Il y a un côté ludique, toujours, oui. Un côté interactif, oui. Participatif. Il y a aussi une réflexion sur comment est-ce que omniprésents, ces technologies-là. Raphaël ne veut pas qu'on utilise les mots « nouvelles technologies » parce que les technologies ont toujours été là.
Oui, de longue date, oui.
Mais c'est aussi nous éveiller sur...
Exactement.
Mais oui. Il les détourne toujours. Oui. Donc, il prend des technologies de militaires ou de scientifiques ou de policières ou de toutes sortes de surveillance. Puis, il les détourne autant pour... nous faire réfléchir sur leur utilisation dans nos espaces, mais aussi, par exemple, dans Zoom Pavilion, où on voit notre visage partout, toutes les habitudes du monde à prendre des selfies dans les musées. Là, ils détournent ça aussi, et c'est toujours par rapport à notre expérience des œuvres. Donc, il y a un côté où ils nous disent, ah, ben c'est ça que tu veux, ben je vais vous donner ceci, mais en même temps, vous allez être obligé de réfléchir à... Donc, il y a ce côté, le côté ludique, et comme pour nous faire approcher vers le... Puis là, il y a autre chose qui arrive en
arrière. On peut dynamiser la technologie. Oui. Mais dans le fond, on peut qualifier, bien sûr, Raphaël Lozano-Emer d'artiste engagé.
Oui, oui, absolument, absolument. Et puis, on est très heureux, avec l'exposition, d'avoir fait ressortir un peu toutes ces différentes axes avec les commémorations pour le massacre au Mexique ou la Havane, la situation technologique à la Havane ou l'idée de l'air comme étant un droit public, les anthèmes nationaux. Il y a sous-jacent dans chacune des œuvres une œuvre où on défile les nouvelles de la journée. Donc, tout à travers, on a un aspect poétique, un aspect politique, puis un aspect aussi, toute la matérialité des œuvres qui est très, très réfléchie,
et qui a le même impact à tous les endroits, les lieux d'exposition. Ouais. Cet impact-là revient de lieux d'exposition
lieu d'exposition. C'est oui, ça. Absolument. Et oui, alors je pense qu'on doit, malheureusement, on pourrait poursuivre, bien sûr, sur le sujet, mais on, je laisse peut-être
alors, il faut se rendre au oui. MAC pour vivre diverses expériences sensorielles et aussi réfléchir sur les enjeux technologiques d'aujourd'hui en visitant la fascinante exposition de Raphaël Lozano MR qui se terminera le 9 septembre. Et le musée est ouvert jusqu'à 21h les mercredis, jeudi et vendredi. Merci beaucoup Leslie Johnston et François Letourneux.
Plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.